Escapade et vous.
En studio
ou en balade autour d'un micro,
l'émission qui vous donne la parole.
Escapade et vous.
Les initiatives locales se racontent à l'antenne.
Eh bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet Escapadez-vous enregistré depuis nos locaux en direct à Saint-Hippolyte-du-Fort, dehors la pluie bat fort, mais notre invité a bravé les éléments pour nous rejoindre. Je suis avec Claude Zurbach en studio. Bonjour Claude.
Bonjour Antoine.
Claude, tu es donc venu avec nous pour discuter et parler aujourd'hui d'un livre qui est sorti récemment, en tout cas pour sa version française. C'est un livre donc écrit par Ramzi Baroun, enfin écrit, vous allez comprendre dans quelques instants, c'est un peu plus compliqué que ça. En tout cas, le livre s'appelle « Ces chaînes seront brisées ». Le sous-titre, c'est « Récits palestiniens de lutte et de résistance dans les prisons israéliennes ». Donc voilà, la question des prisonniers palestiniens en Israël, sur une approche aussi historique. Hein, vous allez voir que justement, ce n'est pas d'aujourd'hui que cette réalité existe. Ces récits, eux, sont assez actuels, même s'ils ont été principalement collectés avant, en tout cas... le 7 octobre 2023, mais il reste complètement d'actualité, voire même nous allons pouvoir creuser cette question donc avec toi, Claude. Est-ce que avant qu'on rentre dans ces récits donc de prisonniers palestiniens en Israël, pour certains qui ont été libérés, des choses qui ont été écrites soit pendant, soit après, est-ce que tu peux déjà nous donner un petit contexte sur l'écriture de ce livre? Déjà, qui est ce Ramzi Baroun qui a pris en charge l'édition de ce livre? Et toi, tu as donc traduit ça en français aussi, dans un petit peu dans quelles conditions tout cela s'est fait? Vaste question.
Oui, très bien. Donc, en quelques mots, je vais me présenter. Donc, je suis militant de la solidarité avec la Palestine depuis maintenant de très nombreuses années. Je suis toujours intervenu dans le champ de l'édition, de la traduction, de la publication. Je suis informaticien de métier. Donc j'ai beaucoup appuyé les associations pour développer leur site web, mettre en ligne des analyses de l'information et contribuer aux mobilisations. Alors, je me suis maintenant spécialisé sur un site internet qui s'appelle Chronique de Palestine, qui est le pendant français d'un site international qui s'appelle Palestine Chronicle, dont le responsable d'édition est Ramzi Baroun. Ramzi Baroun, j'en dirai un petit mot tout à l'heure. En plus de ce site Chronique de Palestine, j'ai entamé il y a pas mal d'années un travail de traducteur. J'ai traduit donc des livres sur la seconde intifada, des biographies, beaucoup d'articles analytiques. Et récemment, j'ai contribué à la traduction d'un ouvrage qui s'appelle « Notre vision pour la libération », qui est un ouvrage conjoint de Ramzi Baroun et de Ilan Pappé, dont je dirai un mot à la fin. Et aussi le livre auquel Antoine a fait référence, qui est « Ces chaînes seront brisées ».« Ces chaînes seront brisées » est signé de Ramzi Baroun. Ramzi Baroun, qui est palestino-américain, qui vit principalement aux États-Unis, qui est originaire de la bande de Gaza, du camp de Nusayrat, principalement. Camp de Nusayrat, qui aujourd'hui est totalement ravagé, comme vous vous en doutez. Et Ramzi Baroun est... analyste, journaliste, écrivain, il a été aussi poète. Lorsqu'il était jeune, au moment de la première intifada, ses poèmes étaient écrits sur les murs de Gaza et il était très connu pour ça. Bon, actuellement, il est moins versé dans la poésie du fait de la charge de travail qui est la sienne. Mais sur le fond, Ramzi Baroun reste un poète. Alors son livre... Ces chaînes seront brisées et fait de récits de prisonniers qui ont été collectés de diverses manières. Ce sont des récits faits par la famille de certains prisonniers. Ce sont aussi des récits de prisonniers eux-mêmes depuis la prison ou alors de prisonniers après leur libération. Il y a des femmes, des hommes et il y a même une jeune fille, une adolescente. Alors c'est un choix qui est celui de Ramzi Baroun et par rapport à tout le matériel qu'il a pu collecter au moment où il a eu ce projet, forcément, le choix est injuste. Il y aurait des centaines de récits à mettre en forme et à publier. Mais donc, il a fallu faire une sélection. Ramzi Baroud a fait un véritable travail d'écrivain, donc un travail d'écriture, parce qu'il a fallu mettre ça sous forme publiable, dans une première version anglaise, qui est parue il y a plusieurs années. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, maintenant que ce livre paraît sur le marché français, il est un peu décalé par rapport à la réalité de la vie carcérale aujourd'hui. Mais ces récits sont d'une valeur inestimable. Ils nous font toucher du doigt la réalité de la société palestinienne, qui est une société qui vit d'une manière ou d'une autre toujours incarcérée, toujours prisonnière. Et la condition carcérale telle qu'elle est exposée, elle est emblématique de la situation de toute la société palestinienne. Donc je reviendrai tout à l'heure en contextualisant un petit peu et en donnant des éléments de comparaison avec la situation d'aujourd'hui.
Sachant, oui, que dans les quelques extraits qu'on va vous proposer à la lecture, d'ici très peu de temps d'ailleurs, bah on va pouvoir justement toucher cette diversité de parcours. Moi, ce que j'ai trouvé fort quand même, si je peux réagir en amont de notre discussion, parce que j'ai donc eu le livre là depuis deux semaines, c'est comme tu dis, une vingtaine de récits, très courts, hein, deux, trois pages, parfois voilà, pas plus. Et bah, sont évoquées évidemment des conditions de détention, disons-le, horribles, avec de la torture, qu'elle soit psychologique ou physique, une incertitude totale sur est-ce qu'on va pouvoir sortir ou pas, la communication avec la famille aussi, il y a vraiment un aspect comme ça de casser psychologiquement, en tout cas, je trouve, des formes d'espoir ou de pouvoir se projeter, alors que quand on est en prison, normalement, on est quand même sous couvert de certaines conditions garanties par le droit. Mais ce qui ressort malgré tout de tous ces récits, c'est effectivement des vies malgré tout qui arrivent à se déployer avec de l'amour, de la famille, des projets. Certains arrivent à mettre en place des projets professionnels qui sont souvent malgré tout liés à la défense de la cause palestinienne. Mais on se rend compte donc que les effets de cette prison ne sont pas forcément ceux attendus, en tout cas par les geôliers. Et comme tu le disais, elle est centrale dans la vie de beaucoup de gens, car visiblement, tout le monde a soit eu quelqu'un de sa famille qui y est allé, qui risque d'y aller. Il y a une espèce d'incertitude comme ça et de ouais, tu as noté le mot chaos, je crois, cette sensation de vouloir créer du chaos dans la société palestinienne par cette utilisation de la prison, en tout cas comme menace permanente.
Oui, oui. Alors juste pour appuyer ce que tu dis, c'est que la prison est une réalité quotidienne pour les gens qui sont incarcérés. C'est une menace pour ceux qui sont à l'extérieur. Et ça reste une menace même pour ceux qui ont été libérés. Donc il y a une imposition d'un état d'incertitude permanent qui fait qu'au niveau d'une toute une société, il est extrêmement difficile de se projeter, de faire des projets, de vouloir avoir une vie professionnelle, familiale, sachant que déjà les conditions externes sont très dures. Mais la volonté de ce système carcéral tel qu'il s'est imposé dès le début finalement de l'occupation de la Palestine, c'est de pratiquer une sorte de sociocide, c'est-à-dire, ou alors à la limite, d'empêcher la fabrique sociale de la société palestinienne. Et cette instabilité, ce chaos entretenu en permanence, demande une très très grande force à la société palestinienne. Il faut refuser ce diktat, il faut refuser ce chantage, il faut, dès que c'est possible, essayer de mener une vie normale.
Eh bien, avant de rentrer dans un récit, on s'était dit qu'on y rentrerait aussi par la musique, car la poésie est présente aussi beaucoup dans cet ouvrage et dans la société palestinienne. On va commencer par écouter un bout de morceau qu'on peut traduire par l'absent, The Absent One, en anglais, par Rim Bana, un morceau qui était sorti en 2013. On vous en dira quelques mots juste après.
حتى بساطة المسجد وبع الكنيسة فهي من أملاكه وبع المؤذن في المزاد الأسود واطفئ ذبالات النجوم فإنها ستضيء درب التائه المتشرد حتى يتامانا أبوهم غائب صادر يتامانا إذن يا سيدي لا تعتذر من قال أنك ظالم لا تنفعل من قال أنك معتدي حررت حتى السائمات غداة أن أعطيت أبراهام حقل محمد
C'était Rimbana, l'absent, the absent one en anglais, et malheureusement je ne sais pas le dire en arabe. Claude, c'est toi qui a proposé cette chanson et cet artiste.
Oui.
Est-ce qu'on peut, tu peux nous en dire quelques mots?
Oui, oui, donc j'ai proposé Rimbana parce que Rimbana est une perle, enfin, était une perle, parce qu'elle est décédée il y a quelques années de maladie, ce qui est vraiment très regrettable. Elle appartenait à la diaspora. Elle vivait en Ukraine. Son mari était ukrainien. Et elle était extrêmement appréciée et aimée. Et la chanson qu'on vient d'écouter, bon, l'absent fait référence, c'est extrait d'un poème. L'absent fait référence à la dépossession des Palestiniens en 1948, puisque peu de temps après, donc... qui est resté dans les mémoires comme la Nakba, enfin la catastrophe, des lois ont été votées pour déposséder les Palestiniens qui étaient absents. Et forcément, ils étaient absents puisqu'ils avaient été chassés et qu'ils se retrouvaient relégués, confinés dans des camps de réfugiés, dans des conditions très difficiles, dans les pays limitrophes et dans la bande de Gaza, qui à ce moment-là était sous domination égyptienne. Et donc, La loi des absents permettait par un artifice juridique de décréter que l'ensemble des propriétés qui avaient été vidées de leur population et de leurs propriétaires redevenaient disponibles et à ce moment-là étaient gérées directement par le nouvel État sioniste. Donc cette notion d'absence, c'est une plaie ouverte. Il faut bien comprendre que la Nakba reste une plaie ouverte après toutes ces générations et tout ce temps, une plaie qui ne s'est jamais refermée. Et Rim Bana l'exprime extrêmement bien.
Voilà, Rim Bana qui nous a quittés en 2018, je crois. Mais vous pouvez encore écouter ses chansons, bien évidemment, sur Internet. Nous sommes toujours donc avec toi, Claude Zurbach, pour parler du livre « Ces chaînes seront brisées », un des récits palestiniens de lutte et de résistance dans les prisons israéliennes. Une coédition Scribest et le CCIFP, d'ailleurs. Peut-être on en dira un mot plus tard pour aussi, si nos auditeurs, auditrices veulent se procurer ce livre. Mais on va vous proposer là tout de suite une lecture, justement, un extrait pour que vous vous rendiez compte un petit peu de la tonalité des récits qu'on peut trouver dans ce livre. Donc, je disais une bonne vingtaine de récits de toutes personnes différentes. Et donc, le premier que nous vous proposons à la lecture s'appelle Moi et Islam. Et il commence comme ça, donc Islam, c'est le nom de la fille de la personne qui s'exprime. Islam n'avait que 6 mois, lorsque j'ai été arrêté en octobre 1993. J'ai passé les premiers mois de mon incarcération dans la prison de Saraya, au centre de Gaza. Je n'ai pas pu voir ma fille pendant des mois. Elle a entre-temps grandi, passant du stade de bébé à celui de petite fille. Lorsqu'elle est venue me rendre visite, pour la première fois avec ma femme et ma mère, je ne l'ai pas reconnue. Elle courait partout, heureuse, sans se soucier du reste du monde. « À qui est cet enfant ?» leur ai-je demandé. Ma femme et ma mère se sont mises à pleurer. Elles m'ont dit qu'elle était ma fille, Islam. J'ai alors maudit l'occupation pour m'avoir privé de ma famille pendant si longtemps. Pendant les 3 premières années, j'ai été déplacé d'une prison à l'autre. Cela se faisait à l'occasion de mes interrogatoires et de mes audiences au tribunal. Pendant cette période, j'ai rarement vu Islam, ma femme ou ma mère. Mon amour pour Islam s'est approfondi avec le temps, d'autant plus que ma femme, qui était enceinte lorsque j'ai été arrêtée, a perdu son bébé. L'armée israélienne n'a cessé de faire des incursions dans notre maison et d'arrêter des membres de ma famille. Les traumatismes et les peurs à répétition ont affaibli ma femme. Une grave hémorragie survenue dans un hôpital de Gaza a fait qu'elle a perdu notre 2e enfant. Pendant 20 ans, j'ai rêvé d'Islam. Son magnifique visage, son innocence et son amour de la vie était ma principale raison d'être. Elle me visitait dans mes rêves et sa pensée m'accompagnait tout au long de la journée. Les rares fois où je l'ai vue, je n'ai jamais été autorisé à la serrer dans mes bras, ni même à toucher sa petite main. Je l'ai vue grandir derrière d'épaisses parois de verre. 3 ans après ma première arrestation, cependant, j'ai enfin été autorisé à être avec elle, mais seulement pour 20 minutes. Lorsque je l'ai prise dans mes bras pour la première fois, je l'ai serrée contre mon cœur et j'ai senti que toute la tristesse et toute la solitude dont j'avais souffert étaient apaisées. J'ai senti que je tenais mon propre cœur et mon âme entre mes mains. Ma belle et pure petite Islam avec moi après toutes ces années. Toute l'obscurité de ma cellule, les longues années de torture et d'interrogatoire se sont effacées. Pendant un instant, je me suis senti accompli. Pendant tout le temps que j'ai passé avec elle, j'ai essayé de retenir mes larmes. Ma femme et ma mère n'en ont pas été capables. Je devais jouer le rôle du mari et du fils solide, mais je ressentais une douleur aiguë dans ma poitrine et dans mon ventre. Quand elles sont parties, je suis retourné dans ma cellule. Je ne voulais ni manger, ni parler à qui que ce soit. Je voulais juste savourer les échos de leur voix, en particulier les phrases toutes simples et les rires de ma fille. Cette nuit-là, je me suis endormi en cachant mon visage dans mes mains pour que mes camarades ne me voient pas pleurer. » Voilà, c'était un extrait, donc une page de ce récit, donc qui est signé par Mohamed Abou Assira, et je le rappelle, donc collecté par Ramzi Baroud dans le cadre de ce livre « Ces chaînes seront brisées ». Un récit tout simple d'un père qui retrouve sa fille, finalement, qui ne la voit pas, surtout pendant des années.
Oui, oui, merci pour ta lecture, Antoine. Ce texte est vraiment remarquable. Il est aussi représentatif, bien sûr, des autres récits. Personnellement, hein, je dois dire que de l'entendre lu, à chaque fois, me le fait redécouvrir. Et à chaque fois, je me rends compte aussi de la, la charge émotionnelle que transporte le récit. Par exemple, bon, moi-même, j'ai des filles. Donc, je suis très proche de Mohamed quand il exprime toute sa souffrance de la séparation subie. Et ce que j'ai pu constater à l'occasion d'un ensemble de réunions que j'ai pu faire pour assurer la promotion du livre, où à chaque fois on fait des lectures d'extraits, c'est que chaque personne finalement qui a ce livre en main réagit plus particulièrement sur un récit ou sur un autre, parce que ça résonne plus avec sa vie personnelle, une expérience particulière qu'il a pu vivre, ou qu'elle a pu vivre. Et donc, ça donne quelque chose d'assez varié. Et ça illustre bien le fait que ces récits induisent un sentiment de proximité. Sentiment de proximité qui est simplement ce que moi j'appelle un signe d'humanité. C'est une capacité à avoir de l'écoute et à partager les émotions d'autrui, sachant qu'elles peuvent résonner avec nos propres émotions. Et c'est terrible de devoir dire ça, mais ce livre humanise les Palestiniens, qui soit sont déshumanisés de manière volontaire, en les présentant comme des gens qui ne pensent qu'à la violence et qui sont incapables de toute rationalité, comme les Israéliens qui les comparent même à des animaux, depuis longtemps, ce n'est pas un phénomène récent, mais aussi on peut les présenter comme des victimes, c'est-à-dire inspirant la pitié, mais jamais des véritables acteurs de leur vie. Comme l'a dit Antoine en introduction, on découvre à travers ces récits que même dans les conditions carcérales très difficiles, ces personnes tentent de se construire une vie et tentent de se construire un projet, un itinéraire, une personnalité qui se développe et qui s'affirme. C'est extrêmement difficile. Ça demande une très très grande force de caractère qui suscite beaucoup d'admiration à la lecture. Alors maintenant, ce qu'il faut peut-être que je rappelle, c'est que ces récits remontent à un certain nombre d'années, à un moment où les conditions carcérales étaient à peu près gérables selon les rapports de force et à certains moments. Il était possible d'avoir à peu près régulièrement des visites d'un avocat, des visites de la famille, bon, derrière des parois de verre, dans des conditions difficiles.
De la lecture pour certains, comme on peut lire aussi dans votre récit.
Oui, avoir accès à la littérature, apprendre des langues étrangères, avoir aussi une certaine dynamique dans l'organisation des prisonniers eux-mêmes, qui se structuraient, bon, ou avec des gens qui étaient responsables, qui faisaient de l'animation culturelle, qui faisaient de l'éducation. Enfin, les prisons pouvaient être aussi des écoles révolutionnaires, hein, comme c'est le cas dans beaucoup de pays. Et donc, comparé à la situation d'aujourd'hui, on a presque l'impression que c'est une situation idyllique. Elle ne l'était pas du tout, hein, parce qu'il y avait des grèves de la faim massives à répétition, où il fallait 4 semaines, voire plus, de grèves de la faim à plusieurs milliers pour obtenir simplement le droit d'avoir le droit de faire, à certains moments, sa propre cuisine dans la cellule. Et tout ça pouvant être remis en cause à tout moment. Alors,
tu veux parler donc de la bascule qui a eu lieu après le 7 octobre.
Voilà, c'est ça. Donc après le 7 octobre, la bascule qui a été faite, bon, qui était en gestation depuis longtemps dans l'évolution de la direction politique en Israël, ça a été de considérer que les prisons allaient connaître un état d'exception, c'est-à-dire une situation de guerre en fait. Donc un ministère a été mis en place, au ministère de la Sécurité, de la Défense, sous la responsabilité d'un psychopathe qui s'appelle Ben Gvir. Je dis psychopathe hein, parce que c'est des gens qui ont un culte de la violence et de la mort qui est terrible, quoi, et qui ne connaissent aucune inhibition. Donc on décrète que le monde carcéral est sous état d'urgence. À ce moment-là, l'armée peut y intervenir, la police, bien sûr l'administration pénitentiaire qui existait déjà. Et on peut utiliser tous les moyens violents que l'on veut pour terroriser et réprimer. Donc il est interdit de prier maintenant. Interdit de prier. J'ai lu un ensemble de récits collectés par une organisation palestino-israélienne qui s'appelle Betselem, de défense des droits humains. Il y a un récit très précis où un prisonnier palestinien a été tué dans un passage à tabac parce qu'il avait fait un appel à la prière à l'intérieur de la cellule. La cellule qui est bondée maintenant, Maintenant, c'est 12 mètres carrés, vous pouvez avoir 12, 15 personnes, c'est infernal. Les gens sont obligés de dormir pour plus de la moitié par terre, sont obligés de se relayer pour pouvoir s'allonger, n'ont pas le droit de la moindre activité de toute la journée, sont soumis à des fouilles régulières qui sont des occasions de passage à tabac. Et quand on estime qu'il y a eu des protestations, même simplement orales ou des murmures de protestations, à ce moment-là, on peut même balancer des grenades sonores à l'intérieur des cellules. C'est absolument abominable. Donc, depuis le 7 octobre, on a comptabilisé plus de 100 prisonniers, plus de 100. Le dernier est mort il y a deux jours, et là, je crois, il avait 17 ou 18 ans. 101 ou 102 maintenant comptabilisés, ça veut dire qu'il y en a forcément beaucoup plus, sont morts soit de négligence médicale, soit de torture, soit de malnutrition. On entretient une malnutrition systématique qui fait que les gens s'étiolent, ont énormément de carences, sont incapables de la moindre initiative de révolte collective qui demanderait beaucoup d'énergie et beaucoup de force de caractère, mais qu'ils ne peuvent pas avoir dans ces conditions. Les prisonniers qui ont été libérés sont dans un état qui est absolument déplorable, ce qui ne soulève guère de protestation ici. Et donc on a installer un état de terreur qui transforme les prisons maintenant en lieux d'exécution. C'est absolument terrible. Bon, je ne veux pas non plus multiplier les détails qui sont trop durs, mais...
C'est vraiment de la torture dont on parle. En tout cas, les récits là dans le livre qui sont antérieurs au 7 octobre déjà font état effectivement de conditions où on vous prive de chaleur, de faim.
Oui, et le confinement et la surpopulation fait qu'il y a des maladies de peau qui se développent et qui se répandent, comme la gale. Ça rend la vie absolument infernale. Dans les dépouilles de Palestiniens qui ont été restituées à Gaza dans le cadre du dernier échange de prisonniers début octobre, il y a 300 dépouilles qui doivent être restituées par les Israéliens. Sur un certain nombre de dépouilles, il y a des traces évidentes de torture. Il y a des traces aussi d'ablation de certains organes. Et ça évoque donc un trafic d'organes qui est assez généralisé, qui n'est pas nouveau. Et il y a aussi des corps qui ont été restitués dans des états tels qu'ils étaient, il était impossible de les identifier. Donc les familles se pressent autour des dépouilles, essayent de retrouver des moyens d'identifier ce qui pourrait être leurs êtres chers, mais à certains moments c'est totalement impossible. Donc les tortures sont extrêmement violentes aussi. Elles sont et considérées comme normales et légitimes.
On a eu un petit écho dans l'actualité médiatique. Parce que c'est des choses dont on parle peu, en tout cas dans les médias mainstream, mais il y a eu des échos de ces conditions de détention suite aux flottilles, de la flottille pour la liberté, où donc des activistes du monde entier, dont certains occidentaux, ont été arrêtés et donc ont témoigné de retour chez eux et sur le plateau. Et même pour faire valoir cette parole-là, c'était compliqué. Mais en tout cas, ça a permis aux gens de se rendre compte que si on traitait comme ça... Des militants occidentaux, qu'est-ce qu'il en était de Palestiniens ?
Oui. Greta Thunberg a été maltraitée. Enfin, on a voulu la terroriser, on a voulu lui faire signer n'importe quoi. Alors Greta Thunberg, heureusement, elle est un petit peu connue, ce qui fait qu'il y a eu un certain écho. Mais c'est une petite partie, effectivement, de ce qui peut être imposé en prison.
Et on l'a dit en introduction, mais j'aimerais bien éventuellement que tu réexpliques aussi, parce que c'est pas une réalité, je pense, qui est facilement tangible pour beaucoup de gens. Malheureusement, l'histoire ne s'imprime pas forcément, ne se transmet pas. Mais la réalité de la vie, donc, en Palestine, à Gaza, en Cisjordanie autour, est effectivement une vie empêchée. On parlait d'un prisonnement général. C'est de fait ce qu'est cette enclave, ce que sont ces camps, où quand même on peut circuler, c'est avec des contraintes énormes, pas de sécurité, alors que beaucoup des gens qui sont libres, entre guillemets, vont en plus travailler des fois en Israël et sont malgré tout soumis à des protocoles de sécurité excessifs, complètement, des fois arbitraires même.
Oui, alors, un univers carcéral généralisé à la société palestinienne, oui, c'est exact. Alors, le sujet est effectivement extrêmement large parce que, aujourd'hui, les technologies de pointe servent à une surveillance généralisée et même individualisée. Donc, il est absolument impossible que l'on soit en Cisjordanie, que l'on soit à Jérusalem ou que l'on soit dans la bande de Gaza, de ne pas être à un moment donné identifié et repéré et suivi si nécessaire. Donc, avec les instruments d'automatisation dont on dispose d'aujourd'hui, pour faire référence aussi à l'intelligence artificielle, mais qui est encore un autre sujet, on peut, en l'espace de quelques secondes, identifier et suivre autant de cibles que l'on veut, et même automatiser leur exécution sommaire. Donc, on n'échappe plus aujourd'hui en Palestine à un système de surveillance extrêmement sophistiqué et extrêmement fin, qui est vraiment un instrument de domination politique. Mais dans le cas de la Cisjordanie, c'est aussi dans un contexte d'expropriation qui devient massif. Aujourd'hui, ce qui est imposé à la Cisjordanie commence à s'apparenter pour une part à Gaza. On déplace des milliers de personnes, on les empêche de rentrer chez eux, on fait des démolitions de maisons à grande échelle et on lâche de véritables bandes armées qui sont des colons surexcités et armés. Les armements sont fournis en plus par des organisations américaines qui se cotisent. Enfin, c'est des choses terribles. Donc la Cisjordanie est maintenant dans un état d'instabilité complet et sans perspective claire sur son devenir, si ce n'est d'être réduit en peau de chagrin. Dans le cas de Gaza, il faut dire les choses comme elles sont. On est dans un contexte d'extermination. Alors, l'extermination a changé un petit peu de rythme depuis début octobre avec ce qu'on a appelé l'initiative Trump. Mais en fait, Trump, bon, qui est un fou mégalomane versatile, hein, ça je suis bien d'accord, hein, mais qui est quand même entouré par une bande de criminels qui eux, ne sont pas forcément dépourvus d'intelligence, considérait que la situation commençait tout doucement à échapper un peu aux Israéliens et aux Américains, parce qu'il y avait un déploiement de violence par des bombardements massifs qui finissaient par soulever des protestations au niveau international, qui commençaient quand même tout doucement à poser problème. L'Union européenne avait planifié une réunion pour discuter de l'avenir de l'association et de savoir s'il ne s'agissait pas de le remettre en cause. La FIFA, dans un domaine qui est très symbolique, qui est celui du foot, hein, devait se réunir également pour discuter d'une suspension d'Israël. Il y avait plein de choses comme ça qui se dégageaient. Et donc l'initiative Trump est arrivée à un moment donné qui a permis à tout le monde de dire « on temporise et on ne fait rien ». Donc on laisse les choses continuer comme avant. Quand je dis guerre d'extermination, c'est que je veux juste citer un détail, mais qui, moi, me choque et me pèse, c'est que aujourd'hui, bon, les Israéliens ne tiennent pas compte de leurs engagements formels, ça c'est pas nouveau, mais sur les aliments, sur l'aide alimentaire qui arrive dans Gaza, vous n'avez quasiment pas de protéines, vous n'avez que des lipides, vous n'avez que du sucre, vous n'avez que des choses comme ça. Donc, vous pouvez très bien produire des gens obèses, mais qui sont complètement en carence. Et les protéines sont nécessaires à l'énergie, au fonctionnement cérébral. Enfin, on connaît tous le rôle des protéines dans notre alimentation. Ça veut dire aussi qu'il y a des équipes de nutritionnistes qui travaillent à grande échelle dans un contexte qu'on appelle l'ingénierie de population, l'ingénierie démographique. Ce sont les nouveaux concepts. Aujourd'hui, les Palestiniens sont un peuple de trop. Il y en a d'autres sur la planète, hein. Mais l'avenir qui se dessine à travers ce qui est fait en Palestine est un avenir qui, moi, me glace le sang. Alors, je parle des nutritionnistes. Vous aurez des gens spécialisés sur la psychologie infantile. Vous aurez des médecins qui vont déterminer quels sont les médicaments qu'on laisse rentrer. On ne laisse pas rentrer aujourd'hui les médicaments pour le diabète, pour le cholestérol, pour des maladies qui sont essentiellement des maladies de personnes âgées. Donc, on sait qu'on va les faire mourir. On ne va pas les faire mourir directement dans un bombardement, mais quand on tirera des bilans dans quelques années, on verra que ça aura été extrêmement meurtrier.
Je crois qu'aux infos, il y a quelques jours, ils chiffraient à peu près l'aide alimentaire qui rentrait, sans parler de la qualité. Mmh. Ils estimaient qu'il en faudrait 10 fois plus, quoi, qu'il y avait de quoi couvrir à peu près les besoins de 200 000 personnes et qu'il y a environ 2 millions de personnes actuellement emprisonnées dans la bande de Gaza.
Voilà.
Claude, je te propose un petit passage en musique. On écoute justement la jeunesse d'aujourd'hui qui raconte son quotidien pour traverser le pays, pour des fois aller travailler. C'est du rap, donc c'est Fawzi et Shabjdid. Je ne sais pas si je le prononce bien, Yumi. Et on se retrouve juste après.
« كل جمل مبارح وقف تلوح بالشارع سربيس نصيعة أشير له صف لا مجنبي ضل ميرك هي وخيال هيني قدامك عالكربة واكف كبالك في شرطي لابد عالطلعة بستني خلفك أحزامك صلنا البلد بعدك العادة اليوم بمشيش بدون فنجان سادة أصلي صحيت متايك مش رايق كم من نقاش اليوم بدها تفادر ركبت الأول هسا عالثاني ضايل شوي وبوصل بثواني فكل الحشد خلف الشيش فاتح قال لي اليوم اضرب يا الغالي أنا لست شاعر أنا لست أديب وظيفتي أبرم وأظلني أعيد مسيرة فيها 13 واحد 12 منهم أصلا مناديب فرغ عنده تيفرغ فيك مش أنت الأول لا فيك قبليك ولا كسمك صاير زنر على العلم أنت كل وينك وأنا هسا بجيك والترويحة أرض دموع مش سرفيس لا باخد فور راديو بشغل حاطط أور لا 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 كم من راكب بس تلاقي امتى الراتب فيش دفعي فورد نزلنا جبنا بسيط لا 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 لا
لا لا لا لا لا بوابة الفوار مغلقة دورة مغلقة ظهرية مغلقة والنشاش مغلق وبوابة إذن مغلقة أما محافظات الشمال متخسر في الشمال سالك بروكين سالك زاطرة تواجد المستوطنين يرجى الحذر طريق نابلس تواجد المستوطنين يرجى الحذر حوارة سالك بوابات حوارة سالك طريق 17 سالك دوار يتمع تواجد المستوطنين مغلق 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 مغلق
اللي في البلاد عربية ستة لتر رمانية نمرة صفر تعرف منها إني أنا مقدسي لا جديد هذا حيل أنت كل حالك كيف لا تريد حرب زادك ورا الاخر حر كتير في بلاد فيها العيب من الحكي لا يفيد لا يقول لا يعاد لا يراد لا نبيل لا نهض هو البيع تعرف كيف نعرف كيف نص نمشة طيب على البركة شايفين منظرك زفت من مصغرك في الشايبة وكل حد بكرهك لا احد يمثلني في المحافل الدولية جماهيري قاعدة بتنطر تقبرك تطلب ينصرك شيعي سني مسيحي او علوي بس ينصرك اكتر كوم دون على ارضي تجبر فتح باب رزق مات فقر سكر زيت كتب الكتب بدي اتفكر تحتاج للعون بالفطرة بس نحن نحتاج لها اكثر هيد سياد ورضارد الحفاد هذا عندك احنا ورطنا في ارغم وموتنا تصبر امراض وراثية تخليك ضلك تفكر تسأل نفسك هل
والترويحة ارض دموع مش سرفيس لا باخد فور راديو بشغل حاطط اور لا 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 كم من راكب بس تلاقي امتى الراتب فيش دفعي فورد نزلنا جبنا بسيط لا 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 لا
Yumi, c'était le nom de ce morceau signé Fawzi et Shabjdid, qui, je crois, relate les trajets d'une jeunesse qui essaye malgré tout de vivre là ici, de faire du rap. Le rap qui est d'ailleurs un secteur d'expression assez prisé, je crois, chez la jeunesse là-bas. Il y a toute une génération de rappeurs qui racontent leur quotidien et puis leur lutte aussi dans ce pays, ma foi, où la vie est très compliquée, qui est la Palestine. Nous sommes toujours avec Claude Urbac, justement, pour parler de cette situation autour d'un livre et donc de récits de Palestiniens prisonniers. Le livre s'appelle « Ces chaînes seront brisées ». Il a été donc écrit, rassemblé par Ramzi Baroud et donc traduit par toi, Claude. On vous propose tout de suite la lecture d'un deuxième extrait qui va pouvoir nous permettre aussi de continuer cette discussion. Donc je donne quand même deux, trois contextes pour vous comprendre. Le contexte, ça s'appelle « L'amour malgré les barreaux ». Donc il y a question d'amour, là c'est assez clair. Et c'est donc écrit par Iman Nafi, qui est la femme de Nahel Al-Barghouti. Donc elle parle de leur rencontre en tant que prisonniers libérés les uns les autres. Comme moi, Nahel n'était qu'un lycéen lorsqu'il a été arrêté. Mais contrairement à moi, l'accusation était bien plus grave, puisqu'en 1978, il a été accusé du meurtre d'un soldat des forces d'occupation. Il a passé plus de temps dans les prisons israéliennes que n'importe quel autre prisonnier palestinien. Bien qu'il fût libéré lors d'un échange de prisonniers en 2011, après avoir passé 34 années de rang en prison, il a été arrêté à nouveau, avec 70 autres prisonniers auparavant libérés. Le gouvernement israélien a décidé de rétablir la peine de 117 ans qu'il purgeait au moment de l'échange. Depuis, chaque jour, je prie pour sa liberté. Deux semaines après la libération de Naël, nous avons commencé les préparatifs du mariage, prévu 2 mois plus tard. Il désirait tellement retrouver un semblant de normalité dans sa vie qu'il est retourné, dès sa sortie de prison, cultiver ses terres dans le village de Kobar, près de Ramallah. Malheureusement, les soldats sont revenus le chercher avant qu'il n'ait pu récolter ce qu'il avait semé. Le monde de Naël s'est complètement transformé pendant sa longue détention. Sa sœur unique avait 12 ans lorsqu'il a été arrêté. Lorsqu'il est sorti de prison, elle était grand-mère. Naël a rencontré son fils aîné, Inad, lorsque celui-ci a été arrêté et emprisonné avec son oncle. Et c'est en prison que Naël a rencontré son neveu pour la première fois. Plusieurs de ses proches sont décédés pendant que Naël était en captivité. Son père est mort en octobre 2004, sa mère 1 an plus tard. Malgré toutes les demandes pour permettre à Naël de faire ses adieux à sa mère mourante, ce droit humain fondamental lui fut refusé. J'étais si heureuse d'être mariée à Naël, lui aussi était heureux. Nous étions tous les deux amoureux et notre vie, pour une fois, semblait reprendre un cours normal. De grandes fêtes ont suivi, c'était un grand événement dans toute la Palestine. De nombreux prisonniers libérés et leurs familles s'étaient joints à nous pour un mariage traditionnel que je n'oublierai jamais. Les clans Barghouti et Abu Haniyeh Nafi étaient unis dans un rare moment de félicité. Bien sûr, nous avons dû suivre toutes les étapes traditionnelles qui précèdent habituellement la préparation d'un mariage. Naël était à la tête d'une délégation d'hommes respectés de Kobar qui se sont rendus dans mon village d'origine, Nilin, pour demander officiellement ma main. Il m'est impossible de décrire le sentiment de joie qui régnait dans la maison familiale ce jour-là. J'ai senti que notre bonheur était un acte de défi, de résistance, surtout après avoir été privé de liberté pendant si longtemps. Nous avions été séparés par la prison, mais unis par notre amour pour notre patrie et notre foi dans la justesse de notre cause. On saute quelques lignes pour passer justement dans ce mariage au moment du discours de Naël et Iman. Ensuite, Naël s'est levé et a prononcé ces paroles. « En tant que prisonnier libéré, je considère mon mariage avec une prisonnière libérée comme une victoire contre la prison, un défi lancé à ceux qui nous ont privés de notre liberté et un triomphe de la foi et de l'espoir. Ce moment de joie n'est que le premier pas pour ouvrir la porte de la vie qui nous attend encore. Ils nous ont refusé la liberté, mais ils n'ont pas tué notre détermination à briser nos chaînes. Maintenant, je peux dire qu'Iman et moi allons entamer un nouveau voyage, car nous sommes sur le point de fonder une nouvelle famille au sein de cette grande nation. Nous prions Dieu de compléter notre bonheur et notre joie et de guérir nos blessures qui ont saigné pendant trop d'années, nous laissant des marques profondes pour toujours. Mais ces souvenirs serviront également de leçons qui renforceront notre détermination à poursuivre notre marche vers la liberté. » Sa passion et sa force étaient si évidentes. Il a ému les gens, il m'a ému. J'étais immensément fière de lui et très heureuse à l'idée de notre vie commune. Naël ne s'est pas arrêté là. Il a parlé de ceux qui sont morts pendant son emprisonnement. Il s'est souvenu de sa mère et de son père. Il a parlé de notre peuple à Gaza, de sa lutte exemplaire dans sa grande prison. Il a parlé des Palestiniens de la diaspora et de la nécessité de renforcer notre identité collective en célébrant nos souvenirs et notre culture. Un jour, tous les Palestiniens seront unis et ce sera là la véritable célébration, a-t-il ajouté. Les gens ont acquiescé. Beaucoup de larmes ont coulé ce jour-là et il y a eu beaucoup d'étreintes et d'embrassades. Le bonheur était réel. Je l'ai vraiment ressenti. Voilà cet extrait donc, de ce mariage, cette histoire d'amour. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce personnage, Naël, qui est donc, on l'a compris, quelqu'un de charismatique, qui a passé énormément d'années en prison, mais très respecté dans la communauté.
Voilà. Un récit très fort, hein, et par des personnages très forts aussi. Alors, Naël Barghouti était à un moment donné le doyen des prisonniers. Il était considéré comme le doyen des prisonniers, c'est-à-dire c'est lui qui avait passé le plus de temps en prison, 34 ans avant sa première libération. 34 ans, c'est toute sa vie d'adulte. Il a été incarcéré alors qu'il sortait de l'adolescence. Alors, essayons d'imaginer toute notre vie d'adulte entre quatre murs. C'est ce qui est arrivé à Naël. Il est sorti à l'occasion d'un échange de prisonniers. C'était quand la résistance palestinienne avait fait un soldat prisonnier qui était Chalit. Et les conditions d'échange était assez exceptionnel, puisqu'il y a plus de 1020 prisonniers politiques palestiniens qui ont été échangés contre le soldat israélien, dont Naël Barghouti. comme il est dit dans le récit, il est libéré moins de 2 ans et il est réincarcéré. Alors, donc, c'est typique hein, de l'arbitraire tel qu'il s'applique aux Palestiniens. C'est que on concède à un moment donné une libération et à la première occasion, on la remet en cause quand on estime que les conditions permettent de le faire. Donc, il est réincarcéré et Naël a finalement été libéré à nouveau lors du premier échange de prisonniers après le 7 octobre. Ça a dû être en décembre 2023. Il a été libéré. Mais il a été immédiatement expulsé en Égypte. Alors, donc, Iman, sa femme, a voulu le rejoindre. Et les autorités d'occupation en Cisjordanie lui ont interdit de sortir. Alors, il y a dans cette histoire, qui est une histoire qui est, hélas, assez commune, une volonté, dans le détail, de faire souffrir jusqu'au bout. Donc, Naël Barouti est en Égypte, dans des conditions qui sont tout de même difficiles, parce que si on va toujours dans le détail, ce que l'on sait, c'est que l'autorisation de séjour qui est attribuée aux prisonniers qui sont expulsés en Égypte, elle est provisoire. Très vite, les prisonniers se retrouvent dans une société où, en situation de non-droit, sans permis de séjour, apatrides, finalement, et devant dépendre totalement d'un soutien extérieur qui peut être des gens de la diaspora, certaines organisations, mais dans des conditions qui sont très compliquées. Et avec une séparation imposée de leurs familles qui restent dans les territoires occupés en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza. Je m'interroge toujours sur le degré de cruauté que cela exprime. J'ai du mal à concevoir qu'on puisse avoir tout un système organisé dans ce but, qui est de faire souffrir des individus, individuellement ou collectivement, et de le faire avec un tel acharnement et une telle intelligence dans la volonté de faire le mal. Ça m'interroge beaucoup, je vous avoue. Ce serait l'objet d'une discussion à part et d'une émission à part pour expliquer comment des comportements collectifs peuvent arriver à ce genre d'extrémité. Mais ça nous déstabilise tous beaucoup, dans le mouvement de solidarité ou en dehors du mouvement de solidarité. Et il est important à un moment d'avoir des réponses et de pouvoir en discuter. Donc ce qui est arrivé à Naël Barouti, je parle de son expulsion en Égypte, s'est produit lors du dernier échange de prisonniers où il y a eu 250 prisonniers de très longue peine qui ont été libérés. Il y en a 150 qui ont été expulsés immédiatement, alors que les familles les attendaient. Et les familles sont interdites de sortir de Cisjordanie ou de Gaza. Voilà pour Naël Barouti.
Ouais. Mais c'est, ça va nous amener malheureusement à la fin bientôt de notre rencontre, car le temps file. Est-ce que, justement, avant de reparler un peu du livre, etc., à travers ce récit de Naël et ce discours qu'il a prononcé à son mariage, et à travers ce que tu dis, on entend cet espoir, cette envie toujours d'aller vers des solutions, en tout cas vers l'avenir, même si la situation est terrible, et de garder une forme d'espoir, et en tout cas de s'organiser, de continuer à résister, à s'organiser. Tu parlais du sort des prisonniers politiques, disons-le pour tous, mais notamment de ceux qui peuvent incarner peut-être un avenir politique pour la Palestine, qui sont systématiquement écartés hein, par notamment lors des libérations, ou alors qui ne sont pas libérés pour certains. Donc il y a clairement une volonté que ne puisse pas se reconstituer une autorité quelconque, quelles que soient les formes historiques ou pas qui existent, pour faire face politiquement à la situation et donner une voix au peuple palestinien. Et j'ai envie du coup, dans la foulée, te demander quelle perspective. Et je sais que vous avez aussi participé, tu as aussi traduit un autre livre, justement, qui donne un petit peu des voix d'intellectuels sur cette question.
Voilà. Oui, très bien. Donc, sur les prisonniers politiques qui peuvent jouer un rôle politique, il faut mentionner Marwan Barouti. Marwan Barouti est un dirigeant palestinien du Fatah. Fatah, c'est la première organisation de l'OLP, enfin, du moins, de ce qui subsiste de l'OLP aujourd'hui. Il a été emprisonné au moment de la seconde intifada, c'est-à-dire tout au début des années 2000. Et il est célèbre, extrêmement apprécié, extrêmement aimé. Typiquement, il jouerait, à condition qu'il soit libéré, un rôle politique de premier plan pour reconstituer une force politique palestinienne unifié. Je dis bien unifié. Marwan Barouti n'appartient pas au mouvement Hamas, il n'appartient pas au mouvement de la résistance islamique. Il appartient au mouvement plus ancien du Fatah, qui est quand même considéré comme une organisation laïque à la base. Et bon, il a la capacité, lui, de faire discuter et de faire discuter les organisations entre elles et de faire émerger une véritable direction politique unitaire. Alors, il y a aussi tous ceux qui sont à l'extérieur. Donc, quand on parle de rôle politique de premier plan, la société palestinienne est une société extrêmement éduquée pour laquelle l'enseignement, la qualification sont des instruments de libération. En termes d'alphabétisation, la société palestinienne est l'une des plus alphabétisées au monde, plus de 97%. C'est un taux absolument record comparé à énormément d'autres pays. Donc, ces intellectuels, ce haut niveau d'éducation, produisent de fait une direction potentielle. Et dans le livre qui a été écrit par Hamzi Baroud et Ilan Pappé, qui est une collection aussi de contributions d'intellectuels palestiniens et qui s'appelle « Notre vision pour la libération », qui est sortie aux éditions La Guillotine, les éditions qui tranchent. Donc, ces contributions mettent en évidence que dans des conditions normales, dans un pays normal, des institutions, un gouvernement, un parlement fonctionneraient avec à leur tête des individus de cet acabit qui en auraient la responsabilité et en feraient l'animation. Alors, c'est un ouvrage qui est une traduction collective, et moi-même, j'ai voulu m'attacher à la traduction d'une contribution d'un archéologue qui s'appelle Tahan, qui typiquement sera un excellent ministre de la Culture. J'ai aussi traduit une contribution d'une femme médecin psychiatre qui s'appelle Samar Jabre, qui a été longtemps responsable du secteur de la santé mentale en Cisjordanie pour l'autorité palestinienne. Samar Jabre serait une parfaite ministre de la Santé. Il y a d'autres cas aussi.
Toutes ces personnes sont en exil actuellement.
Non, ces personnes sont en Palestine.
Voilà.
Et ces personnes sont sur place. Il y a aussi Hanin Zoabi, donc une femme qui était députée arabe-israélienne à la Knesset, donc qui représentait un des partis arabes palestiniens qui sont composés des descendants des quelques Palestiniens qui ont pu rester en 1948 dans ce qu'on appelle la Palestine historique. Hanin Zoabi serait parfaite pour la mise en place d'une constituante qui déterminerait une nouvelle constitution palestinienne. Il y a un potentiel énorme et qui est mis en évidence par ce livre. Donc les conditions sont exécrables, mais le potentiel de la société palestinienne subsiste et d'une certaine manière continuera à se développer. Comme disait Alain Grèche, la Palestine, c'est un peuple qui ne veut pas mourir. Donc, l'expression de leur résilience, qui est un mot qu'il faut utiliser peut-être avec prudence, mais de leur capacité de résistance et leur volonté d'avoir une vision pour leur avenir, est très bien exprimée dans ce livre. Alors, c'est une note qui se veut un petit peu optimiste.
Il suffirait peut-être que quelques fissures apparaissent, et elles sont là, hein, sous les pieds de Netanyahou, par exemple, aujourd'hui.
C'est possible. Ilan Pappé, qui est un intellectuel israélien, c'est important de le noter, mais qui a quitté Israël pour aller enseigner en université en Grande-Bretagne, a écrit un livre récemment qui s'appelle « Israel on the Brink », qui est « Israël au bord du précipice », où c'est un Israélien qui le dit. Il prédit la disparition prochaine d'Israël. Une implosion, en fait. Mais ce qui ne veut pas dire... Une implosion, ça veut dire que c'est un système qui va disparaître. Et après, il offre des perspectives politiques, mais en disant quand même que c'est aux Palestiniens d'avoir la responsabilité des perspectives politiques dans ce qui est la Palestine historique.
Ce livre, c'est « Notre vision pour la libération », c'est ça ?
Oui, des personnalités palestiniennes s'expriment.
Avec aussi Hamzi Baroud, donc la barre. Pour la collecte.
Voilà.
Ainsi donc que ce livre dont nous avons un petit peu parlé. On vous a donné deux extraits de deux récits de vie, mais il y en a une bonne vingtaine, je crois. Ils sont tous enrichissants à leur manière. La question de la résistance n'est pas éludée non plus. Certains sont là parce qu'ils y sont allés dans la résistance armée, d'autres par juste un peu cruauté, on va dire, ou par punition peut-être, pour participation à des choses tout à fait légitimes, en tout cas qui ne nous sembleraient pas. Voilà. Donc je vous invite vraiment à vous le procurer. Alors c'est du coup de l'auto-édition, je ne sais pas comment on appelle ça, collection Les Contemporains, donc c'est SECP, c'est les séries écrits et cris de Palestine. Donc avec Scribest et le CCIFP, dont je ne connais pas le...
Voilà, CCIFP, ouais. C'est une petite association que j'avais créée il y a pas mal de temps, Comité de coopération informatique France-Palestine. Et c'était dans ce cadre-là qu'à quelques avec d'autres informaticiens, nous avons créé les premiers sites web du mouvement de solidarité.
Et c'est donc vous aussi maintenant qui continuez à vous charger, par exemple, de la partie édition francophone.
Oui, là on est co-éditeur dans la mesure où on a aussi la responsabilité d'une partie de la diffusion.
Voilà. D'accord. Donc les livres sont accessibles où et comment alors, Claude ?
Alors accessibles en librairie. Donc
sur commande ou peut-être sur
commande et dans les grandes bases de données utilisées par les libraires, le livre est très bien référencé. Ou alors vous pouvez le commander directement en allant sur le site scribest.fr, qui est le site de l'éditeur dans la région de Strasbourg.
Très bien. Et toi-même, tu es donc pas loin d'ici, hein, donc disponible aussi pour présenter ce livre, venir. Enfin là, il est sorti il y a pas très longtemps, hein, c'est ça ?
Il est sorti en juillet.
En juillet. Bah merci beaucoup d'être venu en tout cas nous le proposer à la découverte, à la lecture. Donc c'était un livre qui a été à la base en 2020. Il a été publié. Oui. C'est ça en anglais. D'accord. Mmh. Très bien. Merci à toi, Claude. Est-ce qu'on peut aussi parler du site Chronique de Palestine,
oui,
dont tu t'occupes ?
Oui, alors, quelques mots. Chronique de Palestine, donc je disais que c'était le pendant français, mais pas une traduction intégrale, hein, d'un site anglophone qui est Palestine Chronicle, qui est hébergé aux États-Unis sous la responsabilité de Ramzi Baroud. Bon, site qui est lourdement attaqué, hein, comme on s'en doute, dans le contexte de répression de la liberté d'expression. Donc, il subit des procès en série, mais sur des accusations qui sont fantaisistes. Mais l'objectif, clairement, est de les épuiser dans des dépenses de support juridique et leur demander une énergie extrême simplement pour faire valoir leurs droits, de faire connaître et diffuser leur opinion. Donc, c'est une situation qui n'est jamais acquise. Il y a également une version italienne. Alors, moi, je suis responsable de la version française. Et pour ça, j'anime un petit comité, essentiellement composé de traducteurs et d'éditeurs. Nous faisons tous les jours un travail de sélection, de traduction, de mise en ligne. Et ce site existe depuis 2016, donc ça va faire maintenant 10 ans. Et je dirais qu'il n'y a pas eu un jour où il n'y a pas eu une publication. Donc ça demande un travail permanent d'animation, c'est sûr. Mais nous avons un angle de vue qui a toujours été le même. De privilégier la pensée politique palestinienne et la pensée politique arabe.
Chronique palestinienne, donc, point, je ne sais pas.
Chroniquepalestine.com.
Chroniquepalestine.com, voilà. Bien, Claude, je vais encore te mettre à contribution pour le dernier mot de cette émission. Est-ce que tu peux nous présenter la chanson que nous allons écouter maintenant pour se quitter, de Makadi Nahas, Ya Talam El Sijn? Je ne parle pas du tout arabe, je prononce comme je peux.
Alors, Makadi Nahas est jordanienne, en fait. Et bon, son père a été prisonnier politique en Jordanie assez longtemps. Makadi Nahas fait des interprétations à la fois traditionnelles et avec des arrangements assez modernes. Et la chanson qu'on va écouter est une chanson qui est dédiée aux prisonniers palestiniens. Donc c'est une chanson qui est extrêmement connue dans la société palestinienne et dans le monde arabe, que pour ma part j'ai pu entendre une première fois à Marseille au mois de novembre, donc c'est tout récent. Et pourtant cette chanson est ancienne, 2012. Mais bon, les paroles sont très poétiques et parlent beaucoup du passage de l'obscurité à la lumière, qui est l'allégorie utilisée pour la libération. Mais indépendamment des paroles, et même si on ne les comprend pas, l'expression de la chanson en elle-même suffit, quoi. Elle est extrêmement émouvante et je pense que tout le monde l'appréciera beaucoup. Et je remercie encore Antoine pour son invitation et pour ce moment partagé que j'ai beaucoup apprécié.
Merci à toi d'être venu nous rendre visite. On se quitte donc en musique.
ليس بعد الليل إلا فجر مجد يتسامى ليس بعد الليل إلا فجر مجد يتسامى يا رنين القيد زدني نغمة توجي فؤادي يا رنين القيد زدني نغمة توجي فؤادي إن في صوتك معنى للأسى للأسى والاضطهادي يا ظلام السجن خيم نحن لا نخشى الظلام يا ظلام السجن خيم نحن لا نخشى الظلام ليس فجر مجد يتسامى ليس بعد الليل إلا فجر مجد يتسامى واتخذنا الحب دينا